Une nouvelle semaine de destination que nous allons partager ensemble dans un des hauts lieux culturels du Limousin et de Limoges, en l'occurrence, puisque nous sommes installés au Musée national Adrien Duboucher, cité de la céramique que nous allons partager, parcourir tout au long de cette semaine avec notre invité et guide, en l'occurrence Pierrot Deligne, qui est chargé des publics et de la communication ici. Alors on entend qu'on est effectivement plein cœur des lieux, on a la résonance de ce lieu absolument magnifique, alors qu'on va peut-être définir, pour ceux qui ne l'ont encore jamais parcouru, qu'est-ce que c'est que ce musée Adrien Duboucher.
C'est peut-être le plus vieux musée de Limoges. Il a été créé au milieu du 19e siècle avec pour objectif dans un premier temps de regrouper tous les arts du département. Peinture, sculpture, céramique. Et puis petit à petit, c'est un musée dont les collections de porcelaine et de céramique du monde entier se sont agrandies et qui s'est petit à petit spécialisé dans l'histoire de la céramique qui va de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et effectivement, aujourd'hui, les collections du musée représentent tous ces arts. Alors on parle des arts du feu, ça va du verre, de l'émail, de la céramique. Et puis la céramique, si on devait la définir, c'est de l'argile, ça vient du grec keramos, donc la terre. Donc on creuse la terre, on en extrait des argiles pour en fabriquer ensuite des objets. Alors ils peuvent être en poterie, en faïence, en grès et en porcelaine. Ce qui fait la spécificité du musée, c'est bien sûr qu'il conserve la plus riche collection de porcelaine de Limoges au monde.
Et on ira parcourir tout ça tout au long de la semaine, évidemment. Alors, musée Adrien Duboucher, pour commencer, pourquoi Adrien Duboucher?
Eh oui, c'est vrai. En fait, Adrien Duboucher est le principal mécène du musée. C'est un homme qui est né à Limoges en 1818 et qui n'avait strictement rien à voir avec le milieu de la porcelaine, puisqu'il était le fils d'un marchand drapier de Limoges. Et il va épouser Hermance Biscuit. On voit d'ailleurs le tableau d'Adrien Duboucher et le buste d'Hermance Biscuit, sa femme. Hermance Biscuit, elle est dans le cognac. Son père est un marchand de cognacés. Les cognacs d'ailleurs, Biscuit, existent toujours. Et donc Adrien Duboucher va faire fortune dans le cognacé. Et ça va être un amateur d'art un petit peu particulier, puisqu'il va acheter des œuvres, acheter des collections et en faire systématiquement don au musée de Limoges. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui au musée on conserve à peu près 18 000 œuvres et Adrien Duboucher en a donné à peu près 5 000. Donc un tiers des collections sont dues à cet homme, si bien qu'à un moment de son histoire, la ville de Limoges va décider de donner au musée le nom d'Adrien Duboucher. Chose assez exceptionnelle. Souvent, on a l'habitude, on donne le nom à un bâtiment public lorsque la personne est décédée. Et là, non, hommage vraiment très particulier. Adrien Duboucher est encore vivant. Donc, depuis 1878, le musée s'appelle le musée Adrien Duboucher et il va devenir national quelques années après.
Pourquoi justement national? On a du mal à comprendre. On a l'impression que c'est un musée qui est à nous, qui est en Limousin. Alors, pourquoi ce terme de national?
Alors, il est bien à nous, effectivement. C'est vraiment un musée en territoire qui s'adresse et qui rend hommage aux hommes et aux femmes qui ont pu faire aussi la renommée de Limoges à travers sa porcelaine. Ça, c'est vraiment important. En fait, le musée est devenu national en 1881, puisqu'à un moment, l'État va reconnaître l'intérêt des collections qui ont été rassemblées à Limoges dans le domaine de la céramique, notamment. Et donc, on va, en quelque sorte, nationaliser les collections. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'État prend sous sa protection les collections. Il va également, à ce moment-là, décider de nationaliser l'école d'art, qui est l'École nationale supérieure d'art de Limoges, qui était juste à l'arrière du musée. On aura peut-être l'occasion de l'évoquer aussi. Depuis 1881, le musée fait partie de ces 37 musées nationaux. Il n'y en a pas beaucoup en France, et la plupart sont en Île-de-France. Il y en a 28 en région Île-de-France, donc ça veut dire qu'il n'y en a que 9 en région, et Limoges a la chance d'avoir un musée national sur son territoire.
Alors, très concrètement, aujourd'hui, qui le gère? On a une directrice générale, on a une conservatrice?
Oui, alors depuis, il y a eu un nouveau statut encore qui émerge, c'est toujours aussi l'administration qui veut ça. En 2012, le musée a rejoint l'établissement public Cité de la Céramique Sèvres et Limoges, qui est un tout jeune établissement public qui regroupe deux musées, le Musée national de céramique de Sèvres, le Musée national Adrien Duboucher et la Manufacture nationale de Sèvres. Ces trois établissements-là sont regroupés ensemble et placés sous la direction générale de Romane Sarfati. Et le musée a sa directrice, qui est également conservatrice en chef, qui est Céline Paul. Et c'est elle qui donne un petit peu toutes les orientations du musée aujourd'hui, que ce soit dans sa politique des publics, sa programmation culturelle également, la programmation des expositions. Tout ça est dirigé ici par notre directrice.
Alors, au lieu de la culture, je l'ai dit, ça veut dire passage obligé pour tous les touristes. Quel est le public qui foule régulièrement les allées de ce musée ?
le musée s'adresse principalement au public auviennois. C'est un petit peu moins de la moitié du public. Et puis ensuite, un visiteur sur cinq vient de l'étranger. Alors principalement, ce sont les Anglais, mais vous avez également les Allemands et les Néerlandais. C'est une donnée qu'on retrouve un petit peu partout sur le territoire. À ce sujet, d'ailleurs, le musée met à disposition depuis cet été l'intégralité des textes en anglais. On le propose sur des iPads, puisque tous les textes réalisés dans le musée sont écrits sur des plaques en porcelaine de Limoges. Ça, c'était un enjeu technique assez important, mais ils sont en français. Et donc, aujourd'hui, les traductions sont à la disposition des visiteurs étrangers sur ces tablettes. Donc, voilà. Et après, le reste vient principalement de toute la France.
Pour finir, on peut préciser que ce musée, il a été aussi entièrement rénové. À ceux qui viennent le découvrir, qu'il avait peut-être connu il y a des années et des années, il est important de revenir le voir aujourd'hui.
Oui, et ça, on ne le soupçonne pas lorsqu'on est dans la rue, puisque la façade n'a pas changé. Mmh. C'est une façade classée monument historique.
On n'y touche pas.
On n'y touche pas, voilà, il faut éviter. Bâtiment qui a été construit entre, on va dire, le milieu des années 1890 et 1900. Donc c'était là qu'était installé le musée originellement. Et puis derrière, il y avait la fameuse école d'art. Ça, c'était le projet aussi d'Adrien Duboucher, qui voulait associer un musée et une école. Pourquoi ça? Ben parce que l'idée, c'était que les étudiants qui étaient à l'école d'art, eh ben, pouvaient venir au musée, s'inspirer des chefs-d'œuvre qu'ils pouvaient admirer dans les collections, et s'en inspirer pourquoi? Eh ben, pour créer à leur tour les futurs chefs-d'œuvre. Et il faut pas oublier que la plupart de ces étudiants de l'école d'art de Limoges allaient intégrer les manufactures de porcelaine. Donc c'était plutôt malin. S'ils avaient accès aux plus belles œuvres, ils pouvaient à leur tour fabriquer les plus beaux objets qui allait aider la porcelaine de Limoges à rayonner dans le monde. Donc il y avait un musée en façade, une école à l'arrière, au milieu, rien. Et puis, il a fallu en quelque sorte moderniser ce musée. Il y a un concours d'architecture qui a été lancé au milieu des années 2000. Et effectivement, le musée a complètement changé. On a conservé le musée historique, réutilisé l'école d'art. Et entre les deux, ce qu'on ne soupçonne pas, il y a une extension contemporaine très lumineuse qui associe porcelaine, verre, métal, qui se veut un petit peu comme un patio dans lequel on peut circuler, on entre, on sort, il y a des passerelles, c'est extrêmement lumineux. Et donc voilà, oui, il faut effectivement revenir découvrir ce musée.
Et on va en profiter pour se balader dans ce site tout au long de la semaine, évidemment, et ce dès demain. Et c'est notre deuxième rendez-vous installé ici au cœur du Musée National Adrien Duboucher à Limoges pour découvrir ce site emblématique et culturel de Limoges en compagnie de Pierre Houdeline qui est chargé des publics et de la communication et qui va nous permettre de cheminer cette fois-ci concrètement sur le site. Là on est sur la partie par laquelle le visiteur va commencer, c'est une mezzanine qui va nous permettre de comprendre les étapes de fabrication de la céramique évidemment, et on commence, là on est installé au cœur du four.
Exactement, puisque l'une des étape essentielle dans les arts du feu, c'est la cuisson. Et lorsque le musée a été rénové, on a voulu vraiment plonger le visiteur au cœur un petit peu de ce domaine qu'est la céramique. Il fallait un acte fort, un symbole fort, et quoi d'autre qu'un four à porcelaine. Il faut s'imaginer qu'à Limoges, il y avait 120 fours à porcelaine sur son territoire. Et alors, il faut s'imaginer quelque chose d'important. Il y a une image comme ça, c'est un Américain qui est venu à Paris, qui a souvent parlé de Limoges, la ville rouge. Alors la ville rouge, on peut y voir la connotation sociale, bien entendu, c'est là qu'a été créé l'un des principaux syndicats en France. Mais il faut s'imaginer 120 fours à porcelaine qui devaient être allumés en même temps, chauffé à 1400 degrés, la ville devait véritablement rougir de par elle-même. Ça devait être une image assez fascinante. Et donc c'est vrai que au moment du chantier, ben, je trouve qu'il y a eu cet acte-là de créer ce four-là pour tout de suite plonger le visiteur dans ce que sont les arts du feu.
On précise quand même qu'on n'est pas au cœur d'un four en pierre, hein. On a parlé de choses très lumineuses dans le rendez-vous d'hier, donc concrètement on est entouré de verre.
Oui, et il fallait que ce soit plus stylisé, c'est plus une évocation d'un four à porcelaine, c'est pour ça qu'on présente aussi les maquettes que l'on voit devant nous pour comprendre un petit peu comment fonctionne un four à porcelaine. Et au-delà de ça, dans cet espace, on présente un petit peu ce que sont les arts du feu. La porcelaine appartient à cette vaste famille des arts du feu, Limoges, capitale des arts du feu, on l'évoquait, ça regroupe le verre, l'émail et la céramique, et puis ensuite on présente les différentes étapes de la céramique. Et une fois qu'on sort de ce four, eh bien on va découvrir les quatre étapes pour fabriquer une porcelaine, ou du moins plus généralement une céramique. On y va ?
Alors justement, allons-y.
Là, sur cet espace-là, on allie effectivement des machines-outils, des maquettes qui expliquent aux visiteurs comment on fabrique ou on fabriquait une porcelaine à Limoges. à la fois, on va dire, avant la révolution industrielle et puis après la révolution industrielle, puisque Limoges va connaître ce bouleversement à la fin du 19e siècle dans le domaine de la porcelaine. C'est l'arrivée des machines très impressionnantes, entraînées avec la vapeur notamment. Et vraiment, voilà, on est plongé au cœur de cette fabrication. Et c'est important, cet espace-là. Vraiment, on y tient beaucoup au musée, mais parce qu'il rend véritablement hommage aux hommes et aux femmes, à tous ces gestes qu'il faut pour fabriquer une porcelaine. Et ça aide véritablement les visiteurs à comprendre tout ce qu'on va voir ensuite, quel tour de force il y a à réaliser les chefs-d'œuvre qui sont présentés dans le musée. Alors, ça va de la préparation des pâtes. On voit déjà que, ne serait-ce que pour cette première préparation-là, il faut à peu près environ 5 ou 6 étapes. Il faut extraire les argiles, broyer ces argiles, ensuite les désaérer, c'est-à-dire enlever l'air. Et puis ensuite, il va falloir refaçonner cette pâte-là. Donc, rien que déjà pour préparer, ne serait-ce que la matière première pour fabriquer un objet, vous avez déjà 5 ou 6 étapes. C'est une véritable industrie de main-d'œuvre qui va employer à Limoges jusqu'à 10 000 personnes, on va dire, au début du XXe siècle.
On a la matière première, d'ailleurs, qui est exposée en vitrine. On est vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne.
Oui, tout à fait. Mais c'était vraiment l'idée d'expliquer concrètement comment on peut fabriquer ces objets. Alors, on voit effectivement le quartz, le feldspat. Ça, c'est un petit peu... On en trouve un peu partout. Et puis, il y a ce fameux kaolin. Le kaolin qui est à la base de la fabrication de la porcelaine, qu'on va découvrir à Limoges en 1768. Ça va être le premier gisement de kaolin en France. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à fabriquer de la porcelaine en France. Il faut s'imaginer qu'en Chine, on la fabrique depuis à peu près 1500 ans avant la France, en Allemagne quelques années auparavant. Et puis les premiers qui vont fabriquer de la porcelaine en France, ce ne sera pas à Limoges, ça sera à Sèvres. À Limoges, il faudra attendre quelques années. Alors, il y a notamment cette machine qui est extrêmement intéressante, qui est une machine à calibrer les assiettes. Là, elle a été inventée par un ingénieur de Limoges qui s'appelait Paul Faure.
Alors, qui a son buste,
effectivement, qui est présenté. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'en 3 étapes, avec cette machine, on va pouvoir fabriquer une assiette. Première étape, on va donner l'épaisseur à l'objet. Deuxième étape, on va donner sa forme. Et puis la dernière étape permet d'égaliser les bords. Et quand on parlait vraiment d'industrialisation de cette fabrication de la porcelaine, cette machine en est l'exemple, puisque avant l'invention de cette machine, on fabriquait tout à la main. Une assiette était fabriquée par un ouvrier, on pouvait en fabriquer environ 100-150 par jour. Un ouvrier très habile déjà. Avec cette machine, on va pouvoir passer à 450 assiettes produites par jour. Et donc vraiment, voilà, on sent que la cadence de production à Limoges va être considérable. Et donc, on va pouvoir parler d'une industrie porcelainière à Limoges.
Et puis en bout donc de cette mezzanine, on arrive là sur une grande vitrine où sont exposés des objets.
Alors complètement insolite, parce que quand on évoque ce musée, on ne s'attend pas à voir une casserole, des WC, des couteaux de cuisine, des outils de laboratoire, mais également des prothèses dentaires, des prothèses de hanches. Cette vitrine, elle est consacrée aux céramiques techniques. Et ce qui fait aujourd'hui la renommée de Limoges dans le monde entier, c'est bien sûr les arts de la table, mais c'est aussi ça. Ces fameuses céramiques techniques, c'est nos céramiques du quotidien. Et Limoges est à la pointe de la recherche dans ce domaine-là. Il y a vraiment des industries ultra technologiques en quelque sorte, qui réfléchissent sur cette matière et vraiment qui ont des applications très concrètes. Et c'est important pour le musée de montrer ça. Souvent on pourrait se dire un musée dédié à la céramique, on va voir les assiettes, les tasses à café ou des vases. Et en fait on voit ça aussi et ce qui est intéressant pour nous, c'est vraiment ce squelette qui nous présente, je vous le disais, une prothèse dentaire, les prothèses de hanche, ça c'est des choses dont on a un peu l'habitude. Mais aujourd'hui, on injecte de la céramique en poudre dans les os pour consolider les os, ça c'est vraiment penser à Limoges. Et puis on invente des implants pour reconstituer des corps humains. Alors il y a quelques semaines, il y a eu l'implantation d'un sternum en céramique. On a greffé jusqu'à 1/5 de la boîte crânienne d'un humain qui avait été, on va dire, qui a eu un accident de la vie. Et donc tout ça, ça se passe à Limoges. Tous ces aspects technologiques-là, ce sont des laboratoires de recherche qui essaiment un petit peu sur le territoire. Et le musée se doit de montrer et de vraiment populariser, démocratiser ce savoir qui est en train de vraiment de vivre à Limoges.
Ouais, ça nous est finalement encore plus quotidien que ce que l'on peut imaginer. Simplement, on l'a dit, c'est ouvert aussi à d'autres univers, comme par exemple le verre, qui est également, il y a un secteur consacré au verre ici.
Oui, il y a une salle qui est consacrée à la collection de verres du musée, qui présente un petit peu tous les verres de toutes les époques, depuis Venise jusqu'à la Bohème, et puis aux créations un peu plus contemporaines du XXe siècle. C'est un espace du coup qui montre aussi la volonté du musée de montrer un petit peu ce que sont les arts du feu à travers à la fois la céramique et à la fois le verre. C'est un espace qui est assez joli parce qu'en plus c'est un espace très particulier dans le musée. Il y a une scénographie différente également des objets. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à pousser cette porte pour aller découvrir cette collection.
C'est ce que l'on va faire, nous, tranquillement, hors antenne. Le temps de se retrouver ensuite demain pour continuer de parcourir l'histoire de la céramique ici au cœur de ce musée Adrien Duboucher. Troisième rendez-vous installé ici au cœur du Musée National Adrien Duboucher à Limoges, cité de la céramique que nous parcourons depuis le début de la semaine en compagnie de Pierre Audeline, chargé des publics et de la communication, qui nous fait découvrir ce lieu. Alors justement, on va s'intéresser là au parcours, à l'évolution des choses que vous présentez sur plusieurs niveaux.
Exactement, un parcours en trois étapes où dans un premier temps, on va voir les collections de céramique qui viennent du monde entier, depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Ensuite, une deuxième étape nous emmène dans le monde entier à nouveau, du XIXe siècle au XXIe siècle, donc les créations les plus contemporaines. Et puis le dernier étage est entièrement consacré à l'histoire de la porcelaine de Limoges. Et effectivement, à côté de nous, on peut voir les pièces peut-être les plus anciennes des collections du musée, qui sont consacrées à l'Antiquité, à la fois l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine. Alors là, ce sont les fameuses amphores qu'on peut souvent avoir en vieux souvenir dans nos manuels scolaires, mais pas que, qu'on peut admirer vraiment dans plein d'autres endroits. L'avantage des collections du musée, c'est que les objets qui sont rassemblés ici sont dans un excellent état de conservation. On a très peu d'objets fragmentaires. C'est souvent des objets dans leur entièreté. Et c'est ça qui fait un peu la beauté et la particularité de ces collections, c'est qu'on voit des objets intacte et en très bon état de conservation.
Visuellement, c'est déjà magnifique à découvrir. Et puis ensuite, on l'a dit, il y a ces plaques de porcelaine qui racontent cette histoire, qui permet d'aller au-delà et de comprendre effectivement cette évolution. Alors nous, on va évidemment aller très vite sur cette histoire. Il faut prendre le temps de venir la découvrir ici. Ça s'étale sur quelle superficie au total ?
Alors le musée fait 6000 mètres carrés, donc c'est un vaste musée, très vaste musée, et effectivement il regroupe beaucoup de collections. Alors là on vient de passer devant la porcelaine de Chine, la fabuleuse porcelaine de Chine qui fait beaucoup rêver, et effectivement quand on voit ces objets devant cette vitrine, on est admiratif de voir tous ces objets. Et puis ensuite, eh bien là on va repasser à nouveau devant ce qui va être la faïence, on va dire à l'échelle européenne, et puis on va petit à petit arriver aux premières porcelaines européennes. Ça y est, en Europe, on commence à fabriquer la porcelaine, 1000 ans après les Chinois. Et donc là, on va traverser le 19e siècle avec tous ces courants artistiques. On va découvrir également que le 19e siècle, c'est le défi technique. On va repousser la matière en quelque sorte, on va créer des objets plus fins, on va créer des objets plus hauts. Et donc on va essayer de montrer tout ça à travers ce parcours.
Et le défi technique est donc derrière cette nouvelle porte. Alors voilà, découverte donc de cette partie consacrée donc là au 19e siècle à ces défis techniques.
Oui, vraiment des défis techniques. On est face à des objets pour certains monumentaux. On le voit avec cette coupe en porcelaine qui nous accueille à l'entrée de cette section. Et puis après, on va découvrir des petits objets. Il faut souvent s'arrêter sur les petits objets dans ce musée parce que c'est vraiment eux qui révèlent toute la dextérité, la technicité des hommes et des femmes. Et donc, on découvre tout ça. Et puis, si on continue à avancer, on va traverser le XXe siècle avec ces courants particuliers que sont l'art nouveau, l'art déco. Et puis, on va arriver à la création contemporaine. C'est la dernière partie de ce bâtiment. Et donc là, on voit tous les objets qui ont été créés par des artistes contemporains. Alors, on a des terres vernissées de Picasso. On peut voir également des objets qui ont été mis en dépôt par le FRAC Artothèque du Limousin sur ce plateau contemporain qui présente vraiment des œuvres contemporaines. Il y en a une souvent qui est remarquable, c'est un sac en céramique. Un sac, on a l'impression que c'est un visiteur qu'il a oublié sur ce plateau. On a presque envie de le rapporter à la personne de l'accueil. En fait, pas du tout. C'est un trompe-l'œil. C'était une artiste américaine qui s'appelait Marilyn Levin qui a créé cet objet. Et on a vraiment l'impression qu'il est en cuir. Il y a les griffures, les déchirures. Un sac qui a vécu. Et en fait, ben voilà, il fait partie des collections du musée.
Et là, on vient d'arriver dans le dernier espace, celui, soyons un peu chauvins, qui nous concerne de près, c'est cette fameuse porcelaine de Limoges, avec déjà, avant même de parler de son contenu, la scénographie qui a été réalisée, qui est absolument bluffante.
Oui, souvent, on présente cet espace-là comme un peu l'apothéose de la visite. Et effectivement, c'est pour présenter la plus belle collection de porcelaine de Limoges. Et la scénographie est absolument magistrale, puisque au moment de la rénovation, on a redécouvert les verrières, donc on a un éclairage naturel qui s'effectue par le haut, et puis il y a la création de ces vitrines très particulières, d'un blanc immaculé, qui ont presque la forme d'un moule à porcelaine ou d'un morceau de kaolin à l'état brut, et c'est dans ces écrins que sont renfermés les chefs-d'œuvre de Limoges.
Alors justement, quelques éléments de ce que l'on peut découvrir, quelles sont les pièces phares, vos pièces phares, pourquoi pas, de cette collection.
Mais je pense que la première, elle est juste derrière nous, c'est la première porcelaine de Limoges. Elle est présentée au musée, c'est un tout petit médaillon sur lequel dessus est écrit « Première porcelaine des terres du Limousin ». Elle est sortie d'un four à Limoges en 1771. Elle est importante, hein, cette pièce, parce que ben voilà, tout commence à partir de ce médaillon.
Elle paye pas de mine, elle est toute petite
elle
dans son petit coin.
Voilà, exactement. Mais c'est vraiment la première œuvre qu'on peut découvrir lorsqu'on entre dans cet espace-là. C'est tout de suite sur notre gauche.
C'est la numéro 6, hein, si vous la cherchez.
Voilà, le cartel numéro 6. Il faut bien se pencher ensuite pour découvrir tout ce qu'elle nous raconte. Et puis ensuite, on va dérouler l'histoire de la porcelaine de Limoges. On va traverser les décennies jusqu'à la création contemporaine. L'art nouveau, l'art déco, le design également, qui arrive à Limoges à peu près dans les années 60-70, où là on va, la définition du design, c'est introduire le beau dans notre quotidien. C'est plutôt charmant comme définition. Et on voit des objets extrêmement modernes. Il y a aussi le service qui avait été créé pour le Concorde, pour Air France. Alors là, il faut savoir que les passagers du Concorde pouvaient repartir, pour certains, avec une porcelaine de Limoges.
On va vous laisser donc découvrir tout cela, hein, cette modernité, cette évolution. Puis nous, on va poursuivre la semaine, peut-être côté coulisses. Et puis on ira voir aussi en fin de semaine ce qui se passe à l'extérieur, parce que le musée est évidemment en intérieur, mais pas seulement. C'est ce que nous verrons ensemble dans nos deux derniers épisodes de la semaine. Et notre quatrième et avant-dernier rendez-vous, toujours installé ici au cœur du Musée National Adrien Dubouchet à Limoges et toujours en compagnie de Pierre Audeline, chargé des publics et de la communication. Et alors là, on va passer côté coulisses, un peu le principe de destination, c'est d'emmener nos auditeurs là où normalement le public ne va pas. On va filer dans les coulisses, les réserves du musée.
Les fameuses réserves, effectivement, c'est un espace toujours qui fait rêver dans un musée. D'ailleurs, on est accompagné par une collègue, Marine, puisque tout le monde ne peut pas accéder librement à cet espace. Même quand on travaille ici, effectivement, c'est vraiment un espace qui est là pour conserver les œuvres qui ne sont pas exposées. C'est vrai que c'est un espace souvent qui fait rêver et qui est assez charmant.
Donc amateurs d'art, évidemment, on rêverait de passer ici. Alors on va le faire pour vous. On va changer d'ambiance sonore, on l'entend, et on va pousser cette porte.
Et voilà, on arrive dans ces fameuses réserves. Alors, il faut savoir qu'elles occupent la même taille que le bâtiment historique. Elles sont en sous-sol, en quelque sorte, dans un demi-sous-sol. Et c'est là, donc, que sont conservées l'ensemble des œuvres qui ne sont pas exposées au musée.
Alors, il faut savoir que... Donnons quelques chiffres, effectivement, on est loin en surface de voir toute la richesse du musée. Hein.
Oui, puisqu'on sont exposées environ 5000 œuvres et les collections du musée regroupent à peu près 18 000 œuvres. 18 000 œuvres où on retrouve un petit peu aussi ce qu'on voit déjà dans le parcours permanent, les céramiques antiques, les fameuses poteries grecques, romaines, et puis bien sûr les faïences qui vont venir d'un petit peu partout dans le monde, les grès et l'histoire de la porcelaine. Alors pourquoi est-ce qu'on n'expose pas tous ces objets? Tout simplement parce qu'il faudrait beaucoup plus de place s'il fallait déjà tous les montrer. Et c'est vrai qu'au moment du chantier de rénovation, on a décidé d'aérer un petit peu la présentation. Le musée a multiplié considérablement sa surface, mais on a vraiment délibérément choisi de ne pas exposer plus d'objets. Les objets sont donc beaucoup plus mis en valeur dans le parcours permanent. Ils sont vraiment, on les a vraiment sélectionnés avec vraiment avec choix, parce que ça permet de, c'est vraiment des pièces emblématiques. Et donc ça a permis comme ça, ben voilà, d'aérer la présentation, de un petit peu de soulager aussi la vue des visiteurs. Et donc lorsqu'on va dans ces réserves, on peut voir toute la richesse des objets.
Oui, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on peut avoir dans l'imaginaire qu'on va se retrouver dans des cartons, tout est entassé. Pas du tout, on a presque l'impression d'être dans un musée bis, puisque tout est sous vitrine.
Exactement, c'était aussi des vitrines qui ont été dessinées au moment de la création du musée et de ce bâtiment-là par Adrien Duboucher. C'est presque les vitrines historiques, et on a à peu près les mêmes au-dessus de notre tête dans le parcours permanent. Et donc ces objets, ils ont une véritable vie. Ce sont des chercheurs qui peuvent venir les étudier. On peut aussi documenter ces objets parce qu'ils nous permettent de décrire l'histoire de cette céramique. Ce sont des musées qui vont demander à ce que le musée prête ces œuvres pour des expositions temporaires. Donc ces œuvres-là, elles voyagent souvent. Elles voyagent en France, mais aussi à l'étranger. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2015, il y a eu une exposition qui a été organisée au Japon, à Seto, qui est une ville jumelée avec Limoges. Et donc ce sont 250 chefs-d'œuvre en porcelaine de Limoges qui ont pris l'avion et qui sont partis au Japon et qui sont restés là-bas 3 mois pour être exposés. Et les Japonais ont pu découvrir l'histoire de la porcelaine de Limoges.
Et comment on vit les choses quand on doit les envoyer? On a une petite appréhension que tout revienne bien en état, parce qu'évidemment, il y a une fragilité de ces œuvres-là.
Il y a une extrême fragilité de ces œuvres-là, mais il faut s'imaginer que ce sont des étapes de préparation, d'anticipation très longues, puisque une exposition temporaire, elle peut se préparer environ 2 ans avant l'ouverture au public. Donc vous avez des personnes qui vont venir choisir les œuvres, des personnes qui vont ensuite venir mesurer les objets, constater les objets. Est-ce que c'est un objet en bon état, qui est fragilisé, pas fragilisé? C'est ce qu'on appelle un constat d'état, mais effectivement, c'est comme un état des lieux. Ensuite, il y a une caisse qui est créée pour les objets, donc les objets sont protégés, et puis ensuite ces objets sont accompagnés par une personne du musée jusqu'à leur installation dans la zone d'exposition temporaire, et ensuite on recommence cette étape-là dans le sens inverse. Et pour terminer, une fois que l'objet est arrivé au musée, revient dans sa vitrine, auparavant, on refait à nouveau un constat d'état, ce fameux état des lieux, pour voir si l'objet a gardé son même état de conservation que lorsqu'il est parti.
Après, c'est des pièces qui arrivent régulièrement, d'où elles viennent, effectivement, il y a des acquisitions tout au long de l'année?
Il y a des acquisitions tout au long de l'année. Alors, les acquisitions, elles peuvent arriver de différents biais. Ça peut être une acquisition par le musée, on achète une œuvre sur le marché de l'art, en quelque sorte. Et puis ensuite, vous avez des donations de particuliers. Et la particularité du musée, c'est que on est très en lien aussi avec les manufactures de porcelaine de Limoges actuelles. Et ces manufactures de porcelaine offrent régulièrement au musée leurs dernières créations. Le musée est véritablement presque un des conservatoires, le conservatoire de la porcelaine de Limoges. Alors c'est pas exclusif, les manufactures ne sont pas obligées, mais ces liens qui existent entre le musée et les manufactures, ce lien qui existe depuis l'époque d'Adrien Duboucher, continue aujourd'hui, et ça nous permet comme ça d'enrichir les collections nationales.
Pour l'instant, on va découvrir celles qui font déjà partie de la collection, qui sont un petit peu en réserve, avant, dans notre dernier rendez-vous, de remonter en surface. On ira même s'oxygéner à l'extérieur, où il y a aussi de jolis trésors à découvrir ici au musée Adrien Duboucher. Et c'est notre cinquième et dernier rendez-vous à la découverte cette semaine du Musée National Adrien Duboucher, cité de la céramique que nous avons parcouru, sur laquelle nous avons appris énormément de choses grâce à notre guide Pierre Houdeline, qui est chargé des publics et de la communication. On vient de refermer la porte du musée en passant un petit peu par les coulisses pour rejoindre ce qui est finalement l'entrée du musée pour le grand public, ces extérieurs qui font aussi partie du site à découvrir.
Oui, tout à fait. Vraiment, les jardins sont conçus comme un espace de promenade, bien évidemment, mais aussi on peut montrer les savoir-faire. Alors, lorsqu'on voit la façade du musée depuis cette fameuse place Winston Churchill, puisque le musée est au cœur de la ville, on voit déjà, peut-être qu'on entend les bruits de circulation, mais donc quand on découvre le musée, on a cette façade historique qui a été créée à la fin du 19e siècle, et ce bâtiment-là se veut aussi un moyen de représenter, de rendre hommage aux personnages importants du Limousin. Ce sont tous les noms que l'on voit sur cette façade. Et parmi les noms que l'on peut découvrir, on a les émailleurs de la Renaissance, allusion aux arts du feu. On a également Turgot. Turgot, c'est le surintendant des finances qui était aussi intendant au moment de la découverte du kaolin à Limoges, enfin à côté de Limoges, à Saint-Thierry-la-Perche, et qui va y voir une réelle opportunité pour le territoire. Donc vraiment, cette façade-là, elle rend hommage au haut personnage du Limousin. Et puis on voit l'utilisation de la céramique, notamment de ces carreaux de faïence et ces carreaux de porcelaine. Et donc on voit à ce moment-là qu'on peut aussi utiliser la céramique pour décorer les façades. Et puis lorsqu'on redescend un petit peu le regard, on voit des lettres en porcelaine qui indiquent entrée du musée. Ces lettres en porcelaine, c'est toute la signalétique aujourd'hui qui est comme ça au musée, et ce sont des lettres en porcelaine de Limoges. Et puis on a également ces deux fontaines avec des têtes qui sortent un petit peu de l'eau. On a un jet d'eau qui jaillit de ces fontaines. Cet artiste, qui est un artiste espagnol, Javier Pérez, a créé en collaboration avec le CRAFT, qui est le Centre Régional des Arts du Feu et de la Terre, qui est un centre de recherche présent à Limoges, et qui fait venir des artistes contemporains pour créer des œuvres. Et puis dans le petit coin là-bas, on voit également un banc en porcelaine qui montre bien cette création du mobilier urbain. Donc voilà, tous ces jardins sont animés de ce qu'on peut faire avec la céramique.
Alors on va se diriger, il y a une stèle également importante à découvrir et que vous croiserez forcément puisqu'elle est juste avant l'entrée même du musée. Pour parler aussi des ferronneries qui sont sur la façade qui entoure ce musée Adrien du Boucher. Alors on l'aura compris si on nous a bien suivi tout au long de la semaine, on peut notamment découvrir deux mots qui sont école, musée. Quand on vient ici, effectivement on vient ici pour le musée, mais il y a ce terme d'école, on comprend effectivement que ça fait référence à l'histoire même du site.
Oui, tout à fait, ça c'est le projet d'Adrien du Boucher qui voulait un musée et une école, donc ces fameux deux bâtiments. Et donc le portail qui est le portail historique en quelque sorte rend hommage à ce projet en soulignant que sur ce site il y avait un musée et une école. Aujourd'hui il n'y a plus qu'un musée, mais l'école elle existe encore, elle est sur le site du campus de la faculté de lettres et de sciences humaines à Limoges. Et ce portail aujourd'hui est fermé. Pourquoi? Parce que l'entrée a été un petit peu décentrée sur la droite. Il y a une nouvelle entrée au musée où on voit Musée National Adrien du Boucher. Et effectivement, c'est une longue allée qui commence presque sur le trottoir et qui va nous conduire petit à petit jusqu'à l'entrée du musée avec cette fameuse stèle, un mur de bol qui est l'œuvre de Jean-Pierre Viaud et de Aguico, deux artistes contemporains qui ont créé un mur de 600 bols avec des formes extrêmement différentes, des couleurs aussi différentes. Alors, on voit ce mur de bol et puis à l'arrière, il y a deux nuages en quelque sorte. Ce sont ces nuages qui sont réalisés en céramique et donc ça crée tout un on va dire une filiation entre l'ancien musée et le nouveau musée, et ça symbolise cette nouvelle entrée. Et lorsqu'on vient au musée, on tient véritablement à ce que chaque visiteur soit accueilli personnellement. Il faut que les visiteurs se sentent bien au musée. Il y a plein d'attentions. On a un plan qui est traduit en 8 langues. On a un livret-jeu également qui est à destination des familles. C'est un parcours sous forme d'énigmes qui a été réalisé grâce au soutien de l'association des Amis du Musée. Alors c'est un grand livret. On peut colorier, dessiner, mais c'est pas qu'un livret pour les enfants. C'est vraiment un parcours en famille. Et ça, c'était une donnée à laquelle moi je tenais beaucoup. Donc on a des informations également à destination des plus grands. Vous avez des planches à dessin également pour les enfants, où les enfants peuvent s'installer devant une œuvre et puis soit la dessiner, imaginer un décor. Donc vraiment prendre le temps de l'observation. Il faut vraiment s'installer durablement. On a des traductions également qui ont été mises en place pour les visiteurs étrangers. Donc vraiment voilà, c'est toute une politique aujourd'hui qui est tournée vers l'accessibilité. Je sais que on parle souvent de ce mot accessibilité et j'ai envie de dire la porte du musée est ouverte. Notre mission à nous, c'est bien sûr au fait que les gens franchissent cette porte et puissent prendre du plaisir à venir au musée. Alors on s'y efforce tout au long de l'année à travers des actions. On peut fêter son anniversaire au musée, ça c'est une action pour les plus jeunes. On a des activités pour les adultes, des visites conférences, on a des ateliers pour les plus jeunes, alors de peinture sur porcelaine, de modelage. Là cette année par exemple, on va réaliser un vase en porcelaine de Limoges. On va couler de la porcelaine. On expérimente également la pâte de porcelaine à travers une visite tactile. Donc voilà, c'est toutes ces attentions-là qu'on ne soupçonne pas toujours. Alors c'est vrai qu'il faut aller des fois un petit peu chercher cette information, mais c'est vraiment au cœur de nos missions aujourd'hui. Voilà, la porte du musée est ouverte, c'est à nous aussi de la faire franchir à chaque visiteur.
C'est l'accès à la culture pour tous.
C'est l'accès à la culture pour tous, exactement. Et ça, c'est une donnée à laquelle on tient aussi beaucoup au musée. Par exemple, les musées nationaux sont gratuits tous les premiers dimanches du mois. Le musée est également gratuit pour tous les moins de 26 ans. Et alors ensuite, il y a d'autres activités tout au long de l'année, la Nuit européenne des musées, les Journées européennes du patrimoine. Donc voilà, on peut vraiment venir assez facilement au musée. Mais comme je vous disais, c'est vraiment à nous aussi d'accompagner les visiteurs dans leur visite.
Alors les infos, évidemment, on les retrouve sur internet puisque le musée a son site internet musée-adrienduboucher.fr. On a les infos au téléphone aussi si on préfère, 05 55 33 08 50. L'idée, pour résumer, c'est vraiment de venir se laisser porter par sa curiosité. On va être forcément très surpris en ressortant du musée.
Oui, c'est souvent ce que nous laissent comme témoignage les visiteurs. Ils ne soupçonnent absolument pas ce qu'il y a derrière cette porte. Et donc il y a vraiment une réelle aventure, une réelle expérience à faire ici. Et puis j'encourage bien sûr tous vos auditeurs à venir vivre et partager cette expérience.